On va commencer Bezrat Hashem, notre premier cours sur le chapitre 10. Et on va essayer de simplifier un peu les choses. D'accord ? On va essayer un petit peu de simplifier les choses. Donc, ça veut dire, simplifier, ça veut dire déjà faire un résumé, expliquer où on en est, expliquer où on va. Donc, là, actuellement, on est dans le Tanya, dans les premiers chapitres du Tanya. Notre but à nous, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, n'oubliez pas. On a expliqué plusieurs fois ces dernières semaines qu'en fait, c'est pas un moteur que nous avons à l'intérieur, mais c'est deux moteurs. D'accord ? Contrairement à ce que les gens pensent qu'il y a un moteur, mais qu'il y a deux pulsions, en vérité, nous avons deux moteurs. Pourquoi c'est important de dire qu'il y a deux moteurs ? Parce qu'il y a un moteur qui est pollué, et un moteur qui est électrique, pur. D'accord ? Voilà, un moteur qui est polluant et un moteur qui est propre. Le moteur polluant, c'est Yetzer Hara. Le moteur propre, c'est le Yetzer Tov. Maintenant, c'est deux moteurs qui sont là en même temps, qui vont nous accompagner toute notre vie, et on ne peut rien faire pour ça. On a expliqué la semaine dernière et la semaine précédente comment, en vérité, ces deux moteurs avaient chacun son siège. Le siège de l'âme divine se trouvait dans la tête, puisqu'avec la tête on réfléchit, avec la tête on prend les bonnes décisions. On fait des décisions réfléchies, posées, calculées. Alors que le siège du cœur se trouve où ? Le siège, pardon, de l'âme animale se trouve où ? Se trouve dans le cœur, puisque justement le cœur, c'est exactement le contraire du cerveau. Si on fait les choses, pas à la va-vite, mais on fait les choses, d'accord, par instinct, sans par pulsion, sans réfléchir. Et c'est un peu ça l'âme animale. L'âme animale, c'est j'ai envie de le faire, je le fais, tu me laisses tranquille, j'en ai rien à faire, j'ai pas de compte à rendre à personne. Et donc finalement, quand on réfléchit, le combat constant qu'on a entre l'âme divine et l'âme animale, donc le combat constant qu'on a avec nous-mêmes, c'est est-ce que je vais faire ce que je dois faire ou est-ce que je vais faire ce que je veux faire. C'est le combat, toute la vie, c'est le même combat, exactement le même combat. Par exemple, quelqu'un il m'a dit une phrase, il m'a blessé. D'accord ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois me taire. D'accord ? Qu'est-ce que je veux faire ? J'ai envie de répondre. Alors, est-ce que je vais faire ce que je dois faire ou ce que je veux faire ? Donc, c'est un combat constant. Des fois, c'est un qui gagne. Des fois, c'est l'autre qui gagne et c'est comme ça. D'accord ? Donc, on a expliqué la semaine dernière. On s'arrêtait longuement sur ça. Là, messieurs. Allez, messieurs, on y va.
Allez, on dépêche, là.
Allez, on est allé direct.
Allez, rabotaille, c'est l'heure, là. Hein ? Voilà. Bon. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, donc on est Perek Yud, chapitre 10. Donc, ceux qui ont tanné en français,
141.
C'est page 141. Vous l'avez tanné, Jackie ? Vous avez suivi à l'oral, d'accord. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, dans chapitres 10, 11 et 12, donc c'est une série de trois chapitres.
Chapitre 10, 140.
Voilà, chapitre 10, 11 et 12. Bonsoir. Qu'on va essayer de terminer Bezrat Hashem 10, 11 et 12. Je pense qu'on arrivera avec ça jusqu'à...
Ce soir
Non, pas ce soir. Doucement. On va aller jusqu'aux vacances avec ça. D'accord ? Jusqu'aux vacances. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste là ? On est mimé, d'accord ? Voilà, il nous reste juin, juillet. Bon, si déjà on arrive jusqu'aux vacances... S'il nous reste un peu de temps, pourquoi pas? Il y a des taniers ici à côté, hein, voilà. Alors, c'est quoi le programme maintenant des prochains chapitres? Chapitres 10, 11 et 12. Maintenant qu'on a expliqué comment fonctionne notre corps à l'intérieur, l'âme divine, l'âme animale, maintenant on va expliquer les acteurs. D'accord? C'est à la mode de parler de sport en ce moment. Donc maintenant qu'on a expliqué le terrain, l'âme divine, l'âme animale, maintenant il faut parler des acteurs. Il y a trois acteurs. En fait, c'est pas trois, c'est cinq, mais on va parler d'abord de trois. Il y a le tzaddik, le rachat et le bénoni. Maintenant, je voudrais revenir à une idée qu'on avait expliquée dans le premier chapitre, une idée qui était peut-être un peu floue à cette époque-là, mais qui maintenant, je pense, sera un peu plus facile à comprendre. Aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est tzaddique, les gens ont l'habitude d'appeler quelqu'un de tzaddique quelqu'un qui est religieux. S'il est bien religieux, même s'il fait des petites avérantes par-ci par-là, on se dit oui, il est tzaddique. Pourquoi ? Parce que les gens ont l'habitude de penser que tzaddique, c'est une personne qui a une majorité de mitzvot. Rachat, c'est une personne qui a une majorité d'Averot, et Benoni, c'est celui qui est kif-kif. Comme ça, les gens ont l'habitude de penser. D'où est venue cette idée-là? Cette idée n'est pas venue de nulle part. Elle est venue de Rosh Hashanah. Parce qu'on dit que Rosh Hashanah, comment on est jugé? Il y a les tzadikim. C'est qui les tzadikim? C'est ceux qui ont plus de mitzvot que d'Averot. Vous savez, la fameuse image de
la balance.
D'accord? Les Rechaim, ceux qui ont plus d'Averot que de mitzvot. Et les Benonim, c'est ceux qui ont la balance, tac, pile poil au milieu. Ça, c'est comme ça qu'on a toujours compris. Seulement, quand on voit dans la Gemara, et surtout quand on voit dans le Zohar, il dit que ça, c'est ce qu'on appelle un nom d'emprunt. Je vais donner un exemple, ça veut dire quoi un nom d'emprunt ? Par exemple, dans le droit, lorsqu'on a une personne qui est jugée, elle est jugée parce qu'elle a fait une bêtise. Et que le juge va dire, cette personne est acquittée. Il est zakaï. D'accord? Quand on a dit qu'il est quitte, ça ne veut pas dire que c'est un tzadique. Ça veut dire que dans ce cas précis, on a décidé qu'il est quitte. Mais ça ne veut pas dire qu'il est tzadique. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que, après 120 ans, même chaque année, quand on est jugé à Rosh Hashanah, quand Dieu lui dit, bon, toi, on a fait la somme toute l'année, t'as plus de misotes que de averot, donc, tzadique. C'est bon. Mais ça ne veut pas dire que je suis tzadique, puisque je me connais, je sais que je ne suis pas tzadique. On ne peut pas m'appeler tzadique. Peut-être dans le jugement, on m'a jugé comme un tzadique, puisqu'on m'a jugé sur ma majorité. Mais d'un autre côté, on ne peut pas m'appeler tzadique, puisque surtout, avec la définition qu'on va expliquer aujourd'hui, on va voir que tzadique, c'est une personne qui est d'une extrême perfection, qu'en vérité, presque personne ne peut atteindre ce niveau-là. D'accord? Et ça tombera bien, puisqu'on est spécial Iloula, après la Iloula de Rabbi Shimon, il y aura une petite mention aujourd'hui pour Rabbi Shimon, pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, c'est de là qu'on a expliqué dans le premier chapitre, qu'en fait, nous, on va chercher la vraie définition des mots. Pas le nom d'emprunt. Pas on appelle une personne tzadik parce qu'il a une majorité de mitzvot. On veut la vraie définition des choses. Qu'est-ce que c'est la vraie définition d'un tzadik? Qu'est-ce que c'est la vraie définition d'un rachat? Et qu'est-ce que c'est la vraie définition d'un beinoni? Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'en vérité, c'est pas trois catégories qu'on va trouver. C'est cinq catégories. Pourquoi cinq? C'est la Gemara Brachot qui nous parle de ça. Qui nous dit, on a le tzadik parfait. Le tzadik imparfait. On a le Benoni, celui qui est au milieu. On a le rachat imparfait et on a le rachat absolu.
Parfait. Un tzadik, on le différencie, sachant qu'il est unique quand même.
On va en parler de tout ça. Mais déjà, ce qu'on va expliquer, c'est que déjà, ce qu'on veut expliquer, c'est qu'il y a ici cinq catégories. D'accord? Trois catégories, mais la première et la troisième est composée de deux niveaux. Ça veut dire qu'en tout, ça nous fait cinq catégories. Alors, pourquoi c'est important pour nous de savoir tout ça? Tu vas dire, mais attends, nous, de toutes les façons, les tzadikim, on sait qu'on n'est pas tzadik. Alors, pourquoi tu me parles des tzadikim maintenant? Alors, pourquoi je parle d'un tzadik? D'abord, parce que même si la majorité de nous, je pense qu'on n'est pas tzadik, d'accord? Je pense, à moins qu'il y ait un tzadik ici, une star, à moins que dans l'assemblée, il y ait un tzadik qui se cache. Mais ce qu'il faut savoir,
hein? Il faut définir le tzadik avant
de voilà. Savoir si on en a ou pas. Très bien, bonne question. Mais ce qu'on va savoir, c'est pour ça que je vous dis ça en introduction, même si vous verrez quand on arrivera à la fin de ce chapitre que je pense que chacun de nous arrivera à la conclusion qu'on n'est ni tzadik parfait et ni tzadik imparfait, on nous en parle quand même, puisque dans certaines facettes de notre vie, on peut devenir tzadik. Puisqu'on va expliquer que le tzadik, c'est celui qui a modifié son caractère à 100%. Notamment le tzadik, il réussit à faire ça, merci, sur toutes les lignes. Nous, on n'arrive pas à le faire. Mais sur certains détails, certains aspects de notre vie, on peut le faire. Par exemple, on a beaucoup amené l'exemple dernièrement d'une personne qui est coléreuse, puisque c'est l'Admor HaZaken qui va donner cet exemple. Une personne qui est coléreuse, une personne qui est fainéant. Il peut se travailler pour se changer complètement. Que celui qui était fainéant, d'accord, ça veut dire qu'il a pas envie de se lever le matin, il a pas envie de se bouger, avant de se bouger pour faire une mitzvah, c'est très compliqué. Et ben, une personne comme ça, il peut se travailler pour changer complètement son caractère, pour devenir empressé. Pour devenir quelque part sadique sur ce détail. On l'appellera toujours pas sadique sur le reste, parce qu'il est pas sadique sur tout. Mais au moins, sur certains aspects de notre vie, on peut changer. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire dans le chapitre 10, on va définir, comme a dit Marcel, on va essayer de définir qu'est-ce qu'un sadique. Qu'est-ce que c'est un sadique? Ça veut dire comme ça. C'est quoi pour vous un tzadik? J'aurais envie de faire un tour de table, j'ai envie de demander pour vous qu'est-ce que c'est un tzadik. Et par rapport à ça, on va développer ce chapitre. Allez. Jackie, c'est quoi pour vous un tzadik?
Un qui est exemplaire.
D'accord. Ok, j'entends. C'est quoi un tzadik pour toi?
Connaît tout à toi.
Donc c'est quelqu'un qui est intelligent. Mais on peut être intelligent et avoir des mauvaises mœurs. Ben, c'est pas incompatible. On connaît des gens comme ça. On peut être racham, mais pas tzadik.
Parce que quelqu'un qui est sage, qui connaît la Torah, qui applique, qui est vraiment sage.
Toi, tu dis un tzadik, c'est un sage.
Ah oui.
D'accord, ok. C'est quoi un tzadik pour toi?
Un tzadik, c'est la définition, c'est un juste. C'est-à-dire c'est quelqu'un finalement peut-être qu'il est conscient des qualités que Dieu lui a données.
Non, je parle pas comment lui se sent, je parle comment toi tu le regardes. Bonsoir.
Moi? Oui. Moi, je le regarde. Bah, comme un modèle. Hein, comme,
un modèle, donc tu reprends ce que Jackie a dit. D'accord? C'est bravo. Ah,
il y en a pas
si. Il y a ensuite, vas-y, Dan, comment tu définis un tzadik?
C'est pas un modèle. Non,
pour toi, un tzadik, c'est un modèle.
C'est le chemin à suivre. C'est pire qu'un modèle. C'est le chemin à suivre. Hein.
D'accord.
De base, pour moi, c'est quelqu'un qui maîtrise son mauvais penchant.
Oui. Ce qu'il en a.
D'accord.
Parce que tout le monde a un mauvais penchant, donc lui, il est capable de le maîtriser.
Il l'a néanti.
En fait, de l'annihiler carrément.
Il arrive mieux à le combattre que.
D'accord.
Comme ça, je le perds.
Ok. Abraham.
Je sais pas, je l'ai jamais vu.
D'accord.
T'as dû en croiser.
Nickel. C'est quoi pour toi un tzadik?
Ici, on sait pas.
Pour moi, c'est quelqu'un qui prend ses pulsions du cœur,
et qui arrive complètement à les diriger par son cerveau.
D'accord.
T'as raison. Un tzadik, c'est quelqu'un qui a un yetzer hara en lui, mais qui le combat quoi qu'il arrive.
D'accord. Michael.
C'est quelqu'un qui est connecté.
Quelqu'un qui est
connecté.
Oui, je voulais dire un truc, c'est quelqu'un qui est connecté. À ce qui paraît, c'est qu'il vit. Non, mais c'est-à-dire, il vit le paradis. Je crois que j'ai entendu qu'un saint, un tzadik, il vit, je crois, le paradis sur terre.
D'accord, ou, ok. J'entends. Qu'est-ce que tu penses comme tzadik ?
Pour moi, un tzadik, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le mal, il ne connaît que le bien.
D'accord. Ouais. Bon, alors.
C'est tout ça, en fait.
Alors, non.
Il y a un amalgame de tout, bien sûr.
Mais je.
Éric, bien.
Excusez-moi de vous reprendre. D'accord. Non, j'ai trouvé des. Des allusions, des bribes de définition. Mais moi, je veux la définition. La définition, qu'est-ce que c'est un tzadik?
Tout
ce que vous avez dit, c'est très important. C'est un exemple, celui qui combat son Yitzhara. Mais vous allez voir que quand on va arriver à la fin du chapitre 12, on va comprendre qu'en vérité, même le Benoni, même celui qu'on appelle le Benoni, c'est mort en bataille.
S'il vous plaît, les amis.
Même celui qu'on appelle le Benoni a une conduite exemplaire. Même celui qu'on appelle le Benoni, d'accord, est une personne qui n'écoute pas son Yitzhara, est une personne que son cerveau domine son cœur, et que ça, en vérité, puisque chacun de nous peut le faire, alors que nous ne sommes pas tzadikim, ça veut dire que c'est pas la définition du tzadik. C'est pas ça, la définition du tzadik. Pourquoi? Parce que sinon, étant donné qu'on sait qu'il n'y a qu'une minorité de gens qui peuvent devenir tzadik, et que la majorité des gens n'ont pas une neshama qui est conçue pour ça, et que d'un autre côté, on nous demande à chacun de maîtriser, que notre cerveau doit maîtriser notre cœur, ça veut dire que c'est pas ça la définition d'un tzadik. Un tzadik a ça aussi, mais c'est pas ça ce qui fait le tzadik.
On va développer.
On fait des pauses pour les questions si ça vous dérange pas. Hein. On fait des pauses, quelques pauses pour les questions. Donc, on va essayer de définir maintenant qu'est-ce que c'est un tzadik. Qu'est-ce que c'est? Et là, vous allez voir qu'on va comprendre que le tzadik, en vérité, c'est une autre gamme. C'est complètement une autre gamme. C'est pas seulement quelqu'un qui est plus intelligent que nous, ou quelqu'un qui avance plus vite que nous, ou quelqu'un qui faute moins que nous. C'est beaucoup plus que ça. On y va.
Est-ce qu'il est à notre service?
Pas spécialement.
Il défend notre cause.
Pas spécialement. On va voir. Bon, j'ai entendu ce que vous avez dit. Tout ce que vous avez dit, c'est juste. Mais on a eu des tzadikim qui n'étaient pas au service du public. On a eu des tzadikim qui n'étaient pas spécialement Chacham en Torah. Bien sûr. C'était pas leur particularité.
Donc c'est quoi un tzadik?
C'est quoi le tzadik? Alors on va y aller. Perek Yud, chapitre 10.
Est-ce qu'on connaît un tzadik?
Bien sûr, on va voir. D'abord, on va donner la définition, après tu me diras si tu connais. Perek Yud. Veine. Kshadam magbir nafsho elokit. Lorsque l'homme magbir nafsho elokit arrive à faire en sorte que son âme divine soit plus forte que son âme animale. Venilcham kolkar. Alors, on a des définitions un peu techniques, hein, mais on va les développer. Venilcham kolkar ima behemit, et qui se bat tellement avec l'âme animale. Ad shemegaresh ou mevaer arash eba mechalal asmali. C'est quoi le tzadik? Le tzadik, c'est celui qui, non seulement que sur le plan de l'action, évidemment qu'il ne fait pas d'avérot, mais pas seulement ça. C'est une personne qui a réussi à renvoyer le mal de son cœur. Je vais expliquer ce que je veux dire ici, parce que ça, c'est quelque chose de très puissant ce qu'il est en train de dire ici. Pourquoi? Bien sûr. Parce que, finalement, c'est quoi ce qu'on a expliqué la semaine dernière? On a dit, c'est très simple. On a dit, j'ai un moteur mauvais, j'ai un moteur qui est bon, et mon rôle, c'est de décider d'utiliser seulement le bon moteur. Mais le mauvais moteur, il est toujours là. Ça veut dire qu'en d'autres termes, lorsque je vais passer à côté d'une bêtise, lorsque je vais passer à côté d'une image pas cachère, personne pourra empêcher mon Yitzhara d'avoir des idées tordues qui vont passer. Seulement, où est la marge de ma mitzvah? La marge de ma mitzvah, c'est que je vais apprendre à me retenir. Mais jamais je peux dire que dorénavant, je serai insensible. C'est pas ça ce qu'on demande. Et d'ailleurs, ça n'arrivera pas. C'est quoi le tzadik? Le tzadik, c'est celui qui est arrivé à un tel niveau que non seulement qu'il s'est battu avec son âme animale, mais qu'il a réussi à le renvoyer. Il a réussi à renvoyer le mal. Ça, il s'est fini. Il a plus Yetzer Hara. Alors, sur qui on dit ça?
De manière d'accord permanente.
Permanente.
Oui. Instanté ou permanente?
Permanente.
Définitive.
Jusqu'à la fin.
C'est fini.
Non, pas du début.
C'est fini. Il a knockout. Il est par terre. Il est mort.
D'accord.
Et ça, vous comprenez que on n'est pas du tout à ce niveau-là. Et la majorité des gens ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. Le maximum qu'on peut faire, c'est qu'on peut apprendre avec le temps. On peut apprendre avec le temps, justement, à travailler son Yetzer Hara. On peut apprendre à ne pas l'écouter, mais il parlera toujours.
Ça veut dire qu'un tzadik ne peut jamais tomber. On a vu de tzadik
qui va voir. Tombés. On va en parler. Bonne question. Ça veut dire qu'en vérité, le Yetzer Hara, il faut l'imaginer comme un parasite qui est là. Mais il sera toujours là. Après, on peut apprendre à s'habituer, à ne pas l'écouter, d'accord, à ne pas être à son service. Ça, on peut s'habituer. Mais il sera toujours là, il aura toujours son mot à dire. Et il te le dira toujours, ce qui est son mot. C'est-à-dire, chaque fois que tu passeras à côté d'une tentation, toujours il sera là. Et ça s'arrêtera jamais. Seulement, la seule différence, c'est est-ce que quand tu passes devant la bêtise, est-ce que tu baisses les yeux ou tu baisses pas les yeux? C'est ça. Celui qui se comporte selon la Torah, il baissera les yeux. Celui qui se comporte pas selon la Torah, ben, il baissera pas les yeux. Mais toujours, il y aura la tentation. Le tzaddik, c'est celui, peut-être qu'il baissera ses yeux. Peut-être. Mais ça lui fait rien. Il devient insensible. Alors vous allez me dire quoi? Alors ça veut dire quoi? C'est quelqu'un de froid? Non.
Il a coupé son moteur.
Non. C'est pas qu'il est devenu. C'est pas que c'est quelqu'un de froid. C'est que c'est quelqu'un que Dieu lui a donné un moteur avec une capacité d'écraser son yetzara, de le tuer. Maintenant, il y a plusieurs manières comment ça va se passer. Et c'est là qu'on va voir le tzaddik parfait et le tzaddik imparfait. Pourquoi je pense que d'emblée, dès qu'on commence le chapitre, on comprend qu'on n'est pas à ce niveau-là et que on ne sait pas si sur un détail de notre vie on est réussi à arriver à ce détail-là. On peut peut-être dans certains aspects de notre vie arriver à ça. Moi, je connais par exemple quelqu'un. Il m'a raconté récemment. Il m'a dit quand j'étais jeune, j'étais toujours très nerveux. Et le bonhomme, il s'est travaillé. Maintenant, tu le vois, tu peux même pas te douter qu'un jour il était nerveux. Impossible. D'accord. Attends, excuse-moi, s'il te plaît. On fait des pauses, d'accord, parce qu'on regarde le film. Donc, le tzaddik, d'accord. On peut peut-être pas devenir tzaddik, et ce bonhomme-là, je pense pas qu'il se prétendait tzaddik, et d'ailleurs je pense pas tzaddik, mais sur certains détails de notre vie, on peut être comme un tzaddik. Mais en général, sur tout le reste, on n'est pas tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est celui qui a réussi, pas seulement à ne pas écouter son yitzhara, comme plusieurs ont dit, mais qu'il a réussi carrément à éloigner le yitzhara et à le supprimer. Ou viarta ara mikirbera, comme c'est écrit dans la paracha Re'e, qu'il a exterminé, il a brûlé le mal mikirbera de lui. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. D'accord? Est-ce que c'est déjà clair ce qu'on est en train de dire ici? Donc, si on devait donner maintenant une définition, une première définition du tzaddik, quelle définition vous donnerez maintenant, d'après ce que je viens d'expliquer?
Il a enlevé le mal.
Le tzaddik, c'est une personne qui est tout bon.
Ouais.
D'accord?
Ça voudrait dire dans ce cas-là que le tzaddik, on avait dit dans l'autre, qu'il est né tzaddik. C'est-à-dire que finalement, il n'a pas cap.
Non. Il naît tzaddik, ça veut dire qu'il naît avec le potentiel de devenir tzaddik.
Alors à quel âge on devient tzaddik?
Ça veut dire qu'il a en lui la capacité de devenir tzaddik.
Ah, tu veux dire qu'il peut ne pas être tzaddik?
Bien sûr.
Ah, il peut ne pas.
Bien sûr. Il a une capacité, le tzaddik, d'accord? Il a une capacité avec un bon travail de mettre à plat son yitzhara. Mais il peut le réveiller s'il veut. Mais il peut le mettre à plat. C'est comme dans un ring, comme dans un combat. Le tzaddik, c'est une personne qui a une force en lui de mettre l'autre par terre. À tel point qu'il ne parle plus. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Nous, on peut simplement décider de ne pas écouter le Yetzirah. Mais le Yetzirah sera là. Je reste quand même avec une question. Après, on fait une pause pour les questions. Juste deux secondes. D'accord? On reste quand même avec une question, à savoir, est-ce que ça veut dire que le tzaddik a tué son Yetzirah? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, le mal ne lui fait plus rien? Est-ce qu'il a un dégoût du mal? Est-ce que le mal ne lui dit plus rien? Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, on va devoir encore développer. Mais déjà, on a compris que c'est une personne qui n'est plus attirée par le mal. C'est déjà quelque chose d'énorme. D'accord, on fait une pause question. Allez-y, Benjamin. Vous avez une question hein.
Non, je disais que, parce que tout à l'heure, le tzaddik, quand même, il naît avec une neshama de tzaddik. Il ne va pas de tzaddik et il ne découvre pas...
Il naît avec une neshama qui a un potentiel.
Au-delà de ce qu'il va avoir comme appréhension... En naissant quand même avec une âme de tzaddik quand même, il va le ressentir.
Il naît avec une neshama qui a un potentiel avec le travail qu'on veut, avec le travail,
consécutif
de devenir tzaddik. Mais un tzaddik peut devenir rachat. Parce que ce même tzaddik, s'il décide, il va aller réveiller son yetzer hara, et dire, oh, réveille-toi, bah, il va le réveiller.
Ça reste un être humain comme tout le monde.
Comme tout le monde, bien sûr. Bien sûr.
Comment on le reconnaît pour...
Quoi?
Comment on le reconnaît?
Ouais, c'est une très bonne question, ça. Il faut attendre la suite.
Mais à part ça, comment il sait qu'il a
cette... C'est une très bonne question. Tu sais pourquoi c'est une bonne question? Parce qu'en vérité, sur le plan de l'action, le tzaddik et le bédoni sont les mêmes. Parce que les deux, devant la bêtise, ils vont baisser les yeux. Seulement la seule question, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Le bédoni, il a eu d'abord le yitzhara qui a envoyé un coup, il a dit non, je t'écoute pas. Mais le tzaddik, il a même pas ce coup-là. Il a même pas eu de pulsion.
Il n'a même pas de pulsion.
C'est-à-dire qu'à la limite, il a même pas besoin de baisser la tête. Et d'ailleurs, en passant, c'est pour ça, une petite parenthèse, on voit des fois des histoires avec les tzadikim, d'accord? Les tzadikim, des fois, il y a des gens qui passent, qui passent pour demander des brachot, etc. Et des fois, tu vois, le chamash qui est à côté, bon, il est là, il est d'accord? Et le tzadik, c'est comme si qu'il a pas vu. Tu dis, c'est pas possible, quoi, il a pas vu ce que j'ai vu. Attends, il a les mêmes yeux que moi. Et c'est là que tu comprends que...
Ah, ça intéresse pas.
C'est là que tu comprends qu'il est pas dans le même... C'est pas un homme comme toi, quoi. C'est quelqu'un de différent. Il est pas comme toi. Nous, on a besoin de baisser les yeux. Tu peux pas regarder.
Ce sont des choses
au-dessus de l'être humain.
Complètement différent. Oui.
Si je comprends bien, on est autour de cette table pour essayer de comprendre cette mécanique. Est-ce que c'est notre objectif
non.
de devenir. Non. Je veux dire, est-ce qu'on a pour objectif dans la vie de devenir cette
mécanique? Non.
On ne peut pas devenir. Non.
C'est pas parce un que le nom du Tania, c'est Sefer chez le Benonim.
D'accord, mais ça peut être frustrant.
Bonsoir. Amen. David, il a dit, il manquait la semaine dernière le Lechaïm.
Ça peut être.
Par exemple, t'as dit qu'elle non vire.
Qui a dit qu'il peut devenir sadique?
Si c'est le but.
C'est pas le but.
C'est frustrant.
C'est pas le but. Le but n'est pas de devenir sadique.
On voit bien qu'il y a un chemin très très important pour pouvoir atteindre ça. C'est carrément des.
Le but, c'est de surmonter son Yetzer Hara.
Inatteignable.
Et ce but-là, le Benoni le fait aussi. Seulement, le sadique, il n'a pas besoin de surmonter son Yetzer Hara parce que son Yetzer Hara est déjà par terre.
Alors pourquoi on parle du sadique dans ces conditions?
Bonne question. On parle du sadique d'abord. Pour savoir les différentes catégories qu'il y a, d'accord. Et à part ça, pour savoir que dans certains aspects de notre vie, on peut devenir tzaddik.
C'est-à-dire qu'on n'est pas full tzaddik.
Non, ça veut dire par rapport à certains aspects, on peut devenir tzaddik. C'est-à-dire qu'on peut supprimer une mauvaise mida complètement. Seulement le tzaddik, il le fait sur toute sa vie, sur toute la ligne. Nous, on n'arrive pas à le faire, mais sur certains aspects, on peut le faire. On a vu des gens, par exemple, qui ont changé. Des gens qui étaient, d'accord, qui faisaient des grosses bêtises et qui ont changé.
C'est là notre condition.
Il faut essayer, mais c'est pas. On verra plus tard. C'est une bonne question. C'est chapitre 15. Il dit, est-ce qu'une personne qui n'est pas conçue pour devenir tzaddik et qui supplie Dieu de le devenir, est-ce qu'un jour il deviendra?
Non. Pardon. Je vais préciser ma question davantage. Tu as dit que on ne peut pas être tzaddik complètement, puisque c'est exceptionnel.
Oui.
Maintenant, nous concernant, sur certains aspects de notre vie, le devenir, est-ce que c'est notre objectif sur la partie question, c'est-à-dire celui qui va essayer de maîtriser. Vous prenez très justement le.
On va faire notre. Oui.
Quelqu'un qui est tendance à être coléreux, il va essayer de faire tout son travail pour se maîtriser. Est-ce que de cette manière-là, il a atteint un objectif?
Alors, bonne question. On va reprendre l'exemple, d'accord? Parce que cet exemple, c'est un homme qui a ramené beaucoup plusieurs fois plus tard. Une personne qui est coléreux. Son but, c'est pas de ne plus devenir coléreux.
Non,
son but c'est de maîtriser sa colère. Parce que probablement qu'il restera coléreux toute sa vie, probablement. Sauf s'il a un coup de chance et que vraiment il réussit à bien travailler, il va réussir à supprimer cette mida, mais c'est presque impossible, c'est très 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 compliqué. Par contre, ce qu'il peut réussir, c'est maîtriser sa colère. Tu comprends? Donc c'est pas un but d'enlever la colère. Le but c'est de faire en sorte que je ne m'énerve pas. Mais de faire en sorte que certaines choses ne m'énervent plus. Et que dorénavant je reste insensible, c'est pas possible ça. Par contre, je sais par exemple que si certaines situations m'énervent, je m'arrangeais pour ne pas rentrer dans certaines situations. Ou je m'arrangeais par exemple quand je vois que ça risque de dégénérer, d'accord, ça risque de déraper, je m'arrangeais pour sortir, etc. Mais faire en sorte que ça ne m'énerve plus, c'est presque impossible. Ça c'est le tzaddik. Ouais, le tzaddik dit, dorénavant ça m'énerve plus. C'est un niveau qu'on peut pas atteindre.
C'est une maîtrise, pas possible.
C'est plus qu'une maîtrise. C'est ça la différence.
C'est un changement, c'est une
transition. C'est un changement. Il a modifié sa nature, ça ne l'intéresse plus.
Donc, ça ne le touche plus. Donc il devient aveugle au monde.
Exactement. Il ne voit plus.
Que le Benoni, il est conscient du monde physique.
Mais il maîtrise. Alors vous comprenez, d'après ce qu'on va expliquer, qu'en vérité, le Benoni a beaucoup plus de mérite que le tzaddik.
Oui,
parce que, quelque part, c'est facile d'être tzaddik. Le bonhomme, il a éteint, il ne voit plus. D'accord, bah oui, mais c'est facile. Bonne fois que le bonhomme, il est tzaddik, où est son travail? Donc on expliquera plus tard que le tzaddik, il a d'autres buts dans la vie. Mais le Benoni a beaucoup plus de mérite. Parce que le Benoni, son Yitzhara ne le lâche pas. Il ne le lâchera jamais. Seulement, avec le temps, on apprend à faire avec. Ok? Donc maintenant, on revient au tzaddik.
J'ai une question aussi loin, justement, par rapport à ce que tu viens de dire. Une fois que le tzaddik, il a changé sa nature, quel est son but dans la vie, quelle est sa mission, à part de vivre pour les autres et de donner des brachot? Parce que lui, il n'a plus rien à faire. Quoi.
Alors, un tzaddik, il n'est pas fait pour faire des brachot. Il n'est pas fait pour vivre pour les autres. D'accord. Un tzaddik, c'est une personne qui est là qui est là pour être connecté avec Akadosh Baruch Hu. D'accord. Et son but, c'est de se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, après, Dieu va lui donner des missions. Il y a certains tzaddikim qui vont avoir une mission d'étudier la Torah toute la journée. D'autres tzaddikim qui auront des missions de bénir le Kaal. D'autres tzaddikim, non, pas spécialement.
Non.
Pourquoi il étudie la Torah toute la journée?
Parce que par exemple, on dit que si dans le monde, à un instant donné, il n'y a personne qui étudie la Torah, le monde arrête de tenir. Donc il faut des gens qui étudient la Torah constamment.
Donc, c'est pour les autres.
Qui va étudier la Torah à 4h du matin?
C'est pour les autres.
À New York.
C'est pas pour lui qu'il étudie, alors que moi demain je vais prendre le combat, je ne le connais pas. Donc je me travaille, je fais mon enseignement. Mais lui, il vit pour les autres et pour le monde.
Sauf qu'on arrive à.
On va voir ça après. C'est une bonne question que tu poses. Mais déjà, il faut comprendre qui il est. Après, on va comprendre pourquoi il travaille. Non, mais je comprends ta question. Mais avant de l'expliquer, c'est quoi son but, il faut d'abord comprendre qui il est. On n'a pas bien compris encore qui il est. On a compris qu'il a tué son Yetzer Hara, mais qui il est réellement? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est plus attiré vers le mal? Est-ce que ça veut dire que le mal lui procure un dégoût? Parce que voilà, par exemple, d'accord, quand on met des excréments devant moi, ni je suis attiré, et en plus, ça me dégoûte. Alors, est-ce que le tzadik par rapport au mal, est-ce que ça ne l'attire pas? Mais est-ce qu'il a un dégoût? C'est ça la question.
Est-ce qu'au final, est-ce qu'il est sensible ou il est insensible?
Mais c'est ça, ça veut dire, on peut d'un côté être insensible, ça m'intéresse pas, d'accord? Voilà, quand tu me dis manger une table, ça m'intéresse pas, mais ça me dégoûte pas. Par contre, tu mets les excréments, je suis pas intéressé et ça me dégoûte. Alors le tzadik par rapport à ça, qu'est-ce qu'il est? Est-ce que ça l'intéresse pas, ça c'est sûr, mais est-ce que ça le dégoûte? Oui ou non?
Non, il est aveugle.
Ah ben non, justement, on va voir que le tzadik d'une certaine manière, d'accord? Étant donné qu'il sait que c'est contraire à la volonté de Dieu, ça peut le dégoûter.
Parce que c'est contraire à la
jusqu'à
volonté.
En vomir.
Parce que c'est contraire à la volonté de Dieu, il la voit. Mais si c'est pas contraire à la volonté de Dieu, il n'a pas besoin de la voir.
Mais s'il voit quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, ça peut le faire vomir. Comme les excréments. Vomir. Dégoûter, il a un dégoût. On va développer. D'accord?
On est sûr qu'on...
1000%, bien sûr, ça existe.
Comment on peut dire
qu'est-ce qui existe? Quoi? Sadique, bien sûr, ça existe.
Il y a 30 sadiques.
Je suis sûr, Marc Sachs, c'est un sadique caché.
Bien caché.
Ah, attends, on va voir, on va revenir à Rabat. On n'a pas parlé de Rabat encore. Bien caché. Mais Abaye l'a dit, non, tu n'es pas Benoni. On va expliquer pourquoi Rabat s'est trompé.
Hein,
bien sûr, il se trompait. Rabat était tzadik. Bien sûr, comme Owen, c'est pas shoot. Faut comprendre que quand on parle de tzadikim, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, même comme les élèves, d'accord, comme les élèves de Rabbi Akiva, on parle pas de monsieur tout le monde, on parle de tzadikim. C'est-à-dire qu'on peut pas les analyser avec tzadik, bien sûr. Tzadikim. On va voir, attends, d'accord, mais c'est une bonne question. Justement, ça veut dire qu'on peut pas le comprendre, on peut pas analyser leur comportement comme on analyse notre comportement à nous. Faut analyser d'une autre manière, faut comprendre d'une autre manière leur comportement. Qu'en vérité, c'est beaucoup plus, leur avéra va être beaucoup plus fine que nous, mais que comme c'est des tzadikim, donc Akadosh Baruch va les juger sur des choses beaucoup plus fines. On va voir. Ça dépend qu'est-ce que t'appelles une avéra.
Pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi dire que c'est un bénéfice
comportement? On va voir, on va développer. On parle pas à n'importe qui. Quand on parle de tzadikim comme Rabbi Akiva, comme Shimon Bar Yochai, comme les élèves, etc., comme les maîtres de la Gemara, c'est des gens qui sont des tzadikim, ça.
Bon, mais alors à la rigueur, ils redescendent d'une division, d'un cran. Pourquoi?
On va développer.
Voilà, okay.
Alors on y va.
Ils sont relégables.
Donc il dit que Moshe Kato, comme c'est écrit. Vous avez dans les mots?
Ah oui.
On va pas bâcler les étapes, on va prendre étape par étape. D'accord? D'abord, on va expliquer qu'est-ce que c'est un tzadik. Qu'est-ce qu'un tzadik? Donc, Moshe Katouf, on a dit, c'est quoi le tzadik? Moshe Katouf, comme c'est écrit, Uviarta ara mikirbecha. Le tzadik, c'est celui qui a réussi à, pas seulement ne pas écouter son etzarara, mais qui a réussi à déraciner, donc brûler, exterminer le mal, mikirbecha, de lui. Ve'ein ara nepach letov mamash, nikra tzadik sheno gamur. Rappelez-vous, maintenant, dans les tzadikim, on avait deux catégories. On avait le tzadik qui était, allez, rabotaï, on se reprend, bon, on va dire les chaïm. Chaim. Bonsoir.
C'est d'où?
Ouais. De?
T'as pas le nez, hein?
De quoi? De? Oui, mais en fait, ouais. Bien sûr, ouais. Oui, c'est pas seulement, c'est autre chose. On va voir ça après. Rabotai, si vous voulez bien, on va juste, maintenant, on va avancer un peu dans le texte, on refera une autre pause question. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de questions, mais essayez de retenir les questions, de les mettre de côté. Dans 10 minutes, un quart d'heure, on fera une autre pause. Donc, on continue. Comment chez Katoub, comme c'est écrit, il y avait une deuxième table, non? Alors?
C'est Claude, non?
Qu'est-ce qui se passe?
Vas-y. On y va, on écoute.
Comme c'est écrit, ou viartar amikirbecha, ve'ein aran nepach letov mamash. Rappelez-vous qu'on avait expliqué qu'il y avait deux catégories de tzadikim. Il y a le tzadik parfait et le tzadik imparfait. Mais les deux sont tzadik. C'est quoi la définition d'un tzadik? Un tzadik, c'est une personne qui a supprimé son yetzara, qui a brûlé son yetzara, qui a exterminé, qui a réussi à le faire, qui a une neshama qui est conçue pour ça. Alors pourquoi un il est parfait, l'autre il est imparfait? Je veux dire, si tu l'as enlevé, il n'y a plus d'etzara, s'il n'y a plus d'etzara, ben c'est fini, il est tzadik. C'est quoi un tzadik parfait? C'est quoi un tzadik imparfait? Alors il dit, parce qu'il y a un tzadik qui a complètement transformé le mal en bien, et il y a un tzadik qui n'a pas transformé le mal en bien. Alors, ça, c'est une notion qui est un peu abstraite, ça veut dire quoi transformer le mal en bien? Il va expliquer. Le tzadik veralo, da'inu shi'eshboa da'in me'at miz'er ra bechalal asmali, et là, chez kafouf ou batel latov, mechamat miuto. Traduction, qu'est-ce qu'il explique ici, le Morazaken? Il dit, il y a deux catégories de tzadikim. D'accord? Première catégorie de tzadikim, c'est quoi? C'est un tzadik qui a supprimé son yetzarara, mais que le yetzarara est un petit peu là. Mais on l'entend presque plus. Je vais reprendre mon exemple du ring de tout à l'heure. Imaginez, d'accord, deux qui sont en train de se disputer. Et bon, à un moment, t'as un qui a gagné, il a mis l'autre par terre. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'autre par terre, il est pas en train de bouger un petit peu. Peut-être qu'il est en train encore de bouger et d'insulter, de dire ouais, tu vas voir ce que je vais te faire. Mais bon, mais il est par terre. Et c'est là en fait qu'on va voir la différence entre le tzaddik parfait et le tzaddik imparfait. Le tzaddik parfait, c'est celui qui tellement il a tué son ennemi, d'accord, que son ennemi, il est par terre, il est en train de dire t'es le meilleur, c'est toi le meilleur, apprends-moi, fais-moi des cours, etc. Ça c'est le tzaddik parfait. Tzaddik imparfait, son yetzara, il est par terre, et il n'embêtera plus. Mais bon, il est là encore en train de faire un peu de résistance. Mais comme il est par terre, il est par terre. Concrètement, dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tzaddik, même le tzaddik imparfait, lorsqu'il passe devant une bêtise, ça lui fait rien du tout. Mais quelque part au fond de lui, il y a quand même un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Mais seulement, tellement il a avancé vers un kadosh baruch hu, qu'il sent presque plus. Mais il y a un petit quelque chose qui est resté. Un tout petit peu. Seulement, comme dans les halakhot de kashrout, c'est tellement, on appelle ça batel beshishim. Ça veut dire que c'est le mal qu'il a, il est tellement infime, que on le sent pas. Mais il y a quelque chose. Il reste un petit peu quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, ce petit mal peut des fois revenir. C'est pour ça qu'on l'appelle tzaddik chez Eino Gamour. Un tzaddik qui n'est pas parfait. Ça veut dire quoi un tzaddik qui n'est pas parfait? Ça veut dire que ce tzaddik-là n'a pas écrasé son yetzarara, n'a pas écrasé son yetzarara au maximum. Seulement, des fois, alors quel est l'indicateur? Comment il peut savoir le tzaddik? Puisque toutes les façons, tu me dis qu'il ressent plus son yetzarara. Velachen nidmelo qui va guérir la koulou le gamré. Il te dit en vérité, ce tzaddik-là, il peut croire qu'il est un tzaddik parfait. Pourquoi? Parce que comme il ne sent plus son yetzarara, comme on a expliqué qu'il lui reste seulement une quantité infime de mal, et que cette quantité est annulée dans la masse de bien, donc du coup il peut dire, ben ça y est, j'ai plus rien. Alors qu'en vérité, il lui reste encore un petit peu. D'accord? Je pense que ça, on peut l'appliquer aussi dans la vie de tous les jours quand quelqu'un fait teshuva. Des fois, on fait teshuva, une personne fait teshuva, et que Baruch HaShem, il a fait teshuva, il a arrêté son chemin d'avant, et il croit que ça y est, il n'y a plus rien. Et bien, il croit qu'il n'y a plus rien. Il dit, ça y est, c'est fini. Mon chemin d'avant, j'ai annulé, d'accord? J'ai plus les mêmes copains, j'ai plus la même vie, j'ai plus les mêmes fréquentations, j'ai plus les mêmes centres d'intérêt. Il a changé. Est-ce que ça veut dire qu'il reste plus rien d'avant? C'est très compliqué à répondre comme question. On peut croire qu'il reste plus rien, et des fois, des années après, ça revient.
D'accord? David Améler, oui. Il dit, mais je m'empêche, il est mort.
Justement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut croire qu'il reste plus rien. Et bien, pendant des années, tu dis, ça y est, c'est fini. C'est passé, c'est fini, il reste plus rien du tout. Et des années après, tac, t'as les idées qui te reviennent dans la tête, des petits trucs qui reviennent dans la tête. C'est pas d'où ça sort. Tu dis, mais d'où ça vient, ça? Je croyais que c'était parti. Donc c'est une question qui est très compliquée à répondre. Et que même chez les tzadikim, qui ont réussi à supprimer leur yetzarara, il y a les tzadikim, tzadik parfait, que lui, il arrive complètement à écraser, il reste plus rien. Et il y a le tzadik qui a enlevé son yetzarara, mais qui reste encore un petit peu. Lui-même, il le sait pas. Et que peut-être, c'est seulement des années plus tard, qu'il aura un petit fond de pensée qui reviendra, un rêve qu'il fera ou un truc comme ça, et ça lui rappellera finalement que ça lui rappellera un petit peu son passé. Ça, c'est ce qu'on appelle le tzaddik imparfait. C'est-à-dire qu'au niveau de l'action, il se comporte parfaitement. Son yetzarara ne le dérange pas. Mais c'est quoi le risque? C'est que peut-être, il aura une petite idée du passé qui lui reviendra de temps en temps. Peut-être. Et encore.
Mais dis-moi donc le tzaddik parfait.
Excusez-moi, on va juste, s'il vous plaît, on va juste finir le fil. Après les questions avec plaisir. Donc, Ubatel la tov mechamat minuto. Velachen nidmelo ki va egarsho va yelach, kulo le gamre. Donc là, on est à la page, voilà, on est à la page, en bas de la page 142. Ubi Urayinian, page 143. Ubi Urayinian, explication du sujet. On fait quelques lignes, après on s'arrête, on prend les questions. Ah non, pardon, j'ai raté Aval Behemet. Aval Behemet, en bas de la page 142. Aval Behemet, mais en vérité, il ou chalav alachlo le gamre kol arachebo, si tout le mal qu'il avait en lui était réellement parti entièrement, ayan et par les tov mamash, le mal se serait transformé en bien. On peut pas avoir neutre, comme rappelez-vous, c'est binaire, soit du bien, soit du mal. Donc il dit, toi tu crois que t'as tout enlevé. Mais il dit, mais si t'avais tout enlevé, tout ce mal se serait transformé en bien. Ça veut dire quoi? Ça, je reviens à une idée qu'on a expliquée la semaine dernière, une idée que j'ai vue la semaine dernière, il y avait plusieurs qui avaient du mal un peu à comprendre. En vérité, le Yetzarara n'est pas mauvais. Le Yetzarara, c'est une capacité à faire des choses. Par exemple, il y a une capacité à aimer. D'accord? Capacité à être attiré vers certaines choses. C'est une capacité. Maintenant, on vit dans ce monde-ci, donc ma capacité à aimer, elle dit, moi, je vais aimer des bêtises. Mais si j'arrive à prendre cette capacité et à la diriger vers la Torah, et c'est ce que le tzaddik arrive à faire, il arrive à le faire à 100%. Donc il arrive à prendre cette capacité, il dit, maintenant, au lieu d'aimer ça, tu vas aimer ça. C'est possible. Il arrive à le faire. Seulement, ce qu'il te dit, c'est que le tzaddik imparfait, c'est quoi? C'est qu'il te dit, au fond de lui, il reste encore un chouïa, un petit peu, des restes du passé. Et c'est pour ça, que de là il y a une phrase dans la Gemara qui dit, c'est écrit aussi dans Pirkei Avot, Al tamin be'atzmar ad yom motach. Que même le plus grand tzaddik, on lui dit, ne crois jamais en toi jusqu'au jour de ta mort. Même si c'est un grand tzaddik et que concrètement il te dit, mais ça y est, c'est pas seulement que je gagne mon yitzhara, c'est pas seulement que j'écoute pas mon yitzhara, il me dérange plus. Ça y est, c'est fini, il me parle même plus. Tu dis, mais ça y est, je suis un tzaddik. Tu dis, non. Al tamin ba'atzmar hadjem motar. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Et l'exemple que la Gemara donne, c'est quoi? C'est Rabbi Yochanan Kohen Gadol. D'accord? Rabbi Yochanan Kohen Gadol. Qui était Kohen Gadol pendant 80 ans, comme ça dit la Gemara. Donc pour être Kohen Gadol, d'accord? C'est quelque chose d'un très très grand niveau. La Gemara dit pendant 80 ans, il était en tout cas de service au Beit HaMikdash, pendant 80 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 80 ans, il a complètement viré, il est devenu tzedoki. Il a quitté la Torah orale. Comment c'est possible? Rabbi Yochanan, c'est un grand maître, il y a ses enseignements dans la Gemara. En plus, ce Rabbi Yochanan, c'est un Kohen Gadol. Vous savez que le Kohen Gadol, s'il avait la moindre pensée déplacée pendant le Kodesh Kodashim, c'est fini, il meurt sur place. Il prend un choc électrique, il s'électrocute tout de suite. D'accord? C'est les lignes à haute tension. Il est obligé d'être, ça veut dire que, imaginez, je crois même, si mes souvenirs sont bons, que j'avais lu dans les commentaires, que c'est le Kohen Gadol, qui a eu le record de celui qui a réussi à faire le plus d'années consécutives. Les autres n'arrivaient pas. Ils disaient, écoute, des fois, ils disaient, écoute, j'arrive pas. Je sais pas ce qui va me passer par la tête. Maintenant, quand j'ai une pensée déplacée, c'est pas penser à une femme. Quand j'ai une pensée déplacée, c'est simplement se déconcentrer un instant du service que je suis en train de faire. Ça peut être même penser au repas qui m'attend ce soir, le soir de, parce que c'était Kippour. D'accord? Même ça, tac, il meurt sur place. Ah, c'est une ligne à haute tension, tu touches, tu t'électrocutes.
D'accord? Tu t'approches.
Alors maintenant imaginez, Rabbi Yochanan Kohen Gadol, qui a été le tzaddik, qui a eu le record le plus grand, d'accord, de Kohen Gadol, et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? Quand même, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui a tenu, et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au bout de 80 ans, eh ben, tout d'un coup, pac, son cerveau lui a joué des tours, et voilà, ben, malheureusement, il a quitté. Et les Chachamim ont essayé de le ramener, il y a des histoires dans la Gemara. Ils ont essayé de le ramener, etc. Rien à faire. Il s'est fini, il était parti. Il avait toute sa tête, en plus. Il avait toute sa tête, on comprenait pas ce qui s'est passé. Eh ben, ça y est, il a quitté la Torah orale. Pour nous montrer quoi? Que même le plus grand des tzadikim, Al Tamin Batzmach Adjomotar, il peut pas croire en soi jusqu'au jour de sa mort. C'est-à-dire qu'il faut toujours être prudent. Et ça, je pense, c'est un enseignement qu'on peut garder aujourd'hui quand on est Chozer B'Tshuva. Il faut toujours être vigilant. On sait, par exemple, avant qu'on a fait Teshuvah, hein, on sait les certaines zones dans lesquelles on était sensible. Après, on a fait Teshuvah. On se dit, bon, ça y est, maintenant, c'est fini, ça me parle plus, ça. Faire attention. Si c'est des choses que je sais qu'avant, c'était mon piège, que mon Yetzara me faisait tomber dedans, même si maintenant, je crois que ça me parle plus, il faut faire attention. Quand je sais, par exemple, que certaines fréquentations, je sais qu'avant, quand j'étais avec certaines fréquentations, ça me poussait à faire certaines choses, ne crois pas que parce que t'es religieux, t'es couvert. On n'est jamais immunisé, c'est impossible. D'accord? Faut toujours être, d'accord? Toujours faire attention. Pourquoi? Parce qu'il peut-être il reste toujours un petit peu de rat, de mal qui est caché, que je ne sais même pas qui est là, et que tu sais jamais quand il va ressurgir à la surface. Donc ça, c'est le tzaddik imparfait. C'est quoi le tzaddik imparfait? Le tzaddik imparfait, c'est celui que, concrètement, son yetzara ne le dérange plus, il écoute jamais son yetzara, bien sûr, parce qu'il ne le dérange plus, mais il reste quand même un petit chouïa de malange. Maintenant, ce qu'on va devoir expliquer, et là, on va faire une pause tout de suite, c'est, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est le tzaddik parfait? Le tzaddik parfait, c'est celui qui ne reste plus rien de mal. Comment c'est possible quelque chose comme ça? Et surtout, est-ce qu'on a un critère pour définir ça? Qu'est-ce que c'est le tzaddik parfait? Qu'est-ce que c'est le tzaddik imparfait?
Est-ce que ça existe, le tzaddik parfait?
Obligé. Oui, bah oui. Dans chaque génération, il doit avoir au moins un tzaddik comme ça. Dans chaque génération, un tzaddik comme ça. Parce que c'est écrit Vet tzaddik et Sodolam. Un tzaddik comme ça, c'est la base du monde, le fondement du monde. Il faut que dans toute l'humanité, il y ait au moins une personne qui est comme ça.
Aujourd'hui, il y a un tzaddik.
Obligé.
On sait c'est qui, on sait pas c'est qui,
c'est une autre question. Mais à chaque moment donné dans l'histoire, il faut qu'il y ait un tzaddik comme ça. Parce que, si tu veux, nous, on est des mauvais joueurs. À chaque moment, il faut au moins qu'il y ait un bon joueur.
Il y a un texte qui dit qu'il y a un bon joueur obligatoirement. 100%.
C'est écrit, Vet tzaddik yesod olam. Le Zohar, il est clair sur ça. Il dit que s'il y a un instant dans le monde, il n'y avait pas de tzaddik gamour, le monde, tout de suite, il est détruit.
Pas un seul.
Et c'est pour ça que d'ailleurs, on l'avait étudié dans le premier chapitre, que la Gemara raconte, elle dit, que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a vu que le nombre de tzaddikim qu'il allait avoir dans l'histoire allait être très réduit, malheureusement. Pas malheureusement, c'est comme ça qu'il a créé le monde, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire que c'est pas son but. Ça veut dire que nous sommes les joueurs principaux, tu comprends? Oh, il y a des joueurs spéciaux, mais nous on est des joueurs principaux. Et qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Comme il a vu que le nombre de tzadikim, de neshama de tzadikim était restreint, qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'est écrit Amad Ushtalan Bechol Dor Vador. Il a planté les tzadikim un petit peu dans chaque génération. Ça veut dire qu'il aurait pu tous les mettre avec les générations, je sais pas, de Gemara, de Mishnah, etc. Et la Gemara, elle dit clair, elle dit que non. Elle dit que comme Akadosh Baruch Hu a vu qu'il n'y en a pas avoir beaucoup, il en a mis un petit peu dans chaque génération pour faire en sorte que dans chaque génération, il y en a.
Un mélange.
D'accord? Un mélange. Donc, là, maintenant, on a commencé à comprendre qu'est-ce que c'est un tzaddik. Je pense qu'avec le début de ce cours, on a déjà compris, en tout cas, moi, j'ai compris pour moi, que je suis très très loin d'être un tzaddik imparfait. Pourquoi? Parce que mon Sahara me dérange toujours. Éventuellement, on arrive, peut-être, dans la majorité des cas, à ne pas l'écouter, mais il me dérange toujours. Et ça s'arrêtera jamais. D'accord? Donc, je sais que je suis pas tzaddik, ni imparfait, ni parfait. Mais on va devoir encore définir qu'est-ce que c'est un tzaddik parfait. Alors, on fait une pause. Allez-y, les questions. Est-ce qu'il y avait des questions?
Tzaddik est sauvé au lame. Ça peut être un tzaddik pour 6000 ans.
Non.
Pas obligé, un par
génération. Dans chaque génération, il faut un tzaddik. C'est écrit, mais fort, le Zohar, il dit dans chaque génération.
Mais tu peux pas l'apprendre du passé de
l'autre. Ouais, mais le Zohar, il explique comme ça. Mais c'est logique aussi. C'est logique que dans chaque génération, il faut quand même un modèle qui est bon. Si même pas un modèle qui est bon, comment on va faire?
Je pense qu'il y a beaucoup plus de force de se battre.
Non, après, c'est pas nos affaires après quel est son but. Ça, on verra plus tard. Quel est son but au tzaddik?
Mais ça veut dire le monde devrait tenir plus par le Benoni qui se bat constamment que par le tzaddik qui n'a
rien. Il faut qu'il y ait une personne qui est parfaite. Il faut qu'il y ait un modèle. Il faut qu'il y ait une référence. Que tout le monde sait, ça c'est la référence.
La référence c'est la Torah.
Non, il faut qu'il y ait une valeur sûre, il faut qu'il y ait une valeur de référence.
Je ne connais pas la référence.
Tu as raison, c'est une bonne question.
Oui.
Donc on arrive à une autre question. Est-ce qu'on a des critères pour définir ce que c'est un tzaddik? Ouais. Ça c'est la deuxième partie du cours. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Ouais.
Oui.
Alors, si j'ai bien compris ce que tu as dit, ouais. Le Chouba ne peut pas être un tzaddik parfait. Puisqu'il reste.
J'ai pas dit ça.
Il reste un petit peu de ce qui a été
perdu. Non, on a des Baal et des Chouba qui sont devenus tzaddiks.
Mais pas qu'il est dit parfait.
Non, un tzaddik comme Rabbi Akiva, par exemple. Pour nous, Rabbi Akiva, le Zohar dit clairement, Rabbi Akiva, c'est un tzaddik gamour. C'est un tzaddik absolu. Pourtant, Rabbi Akiva, à l'âge de 40 ans, avant qu'il fasse teshuva, lorsqu'il voyait un sage, il disait, j'ai envie de le mordre comme un âne.
Un âne sauvage ou un âne?
Un âne.
Un âne, pareil, quand il meurt, il casse tout.
Un âne? Ça se joue un âne qui mord? Faut pas l'embêter. En général, tu le vois sans pas, mais dès qu'il mord, c'est la force qu'a un âne. Il a une force dans les dents énorme. Et il disait, Rabbi Akiva, à l'âge de 40 ans, il disait, si je vois un rabbin, je veux le mordre comme un âne. Et ce Rabbi Akiva, on voit comment il a changé, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il était pas religieux. Enfin, entre guillemets, on aurait dit aujourd'hui, il était pas religieux. Il a fait teshuva. Et comme il avait une neshama qui était conçue pour ça, il est devenu tzaddik.
Oui, mais t'as bien dit que puisqu'il a fait teshuva.
Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que on a différentes catégories de personnes. Et qu'on a le tzaddik chez Eino Gamour, le tzaddik imparfait, c'est celui qui arrive justement à casser son Yetzarara, ne pas l'écouter et le casser, mais qui n'arrive pas à le supprimer complètement. Il reste encore un petit peu. Le tzaddik Gamour, c'est celui qui a peut-être fait teshuva et qui a réussi complètement à le tuer. Donc Rabbi Akiva est un tzaddik Gamour.
Bon, alors si on repart sur Rabbi Yochanan,
oui.
D'où c'est venu d'un seul coup à 80 balais? D'où c'est venu d'un seul coup il s'est orienté?
Parce que à aucun moment Dieu nous enlève le libre arbitre. Et avec mon livre à vous, je peux décider de réveiller les morts. Son Yetzarara qui était mort, je peux décider de raviver. On a vu des gens, par exemple, qui avec le temps, ils se sont travaillés pour ne plus avoir certaines pulsions. Et les gars, ils se travaillent pour stimuler des pulsions. Ils se travaillent. Après, ils se disent, mais pourquoi j'ai plus les pulsions? Et ils se travaillent pour stimuler des mauvaises pulsions. Ils disent, mais pourquoi j'ai plus de mauvaises pulsions? Ça veut dire que celui qui veut, même si c'est une pulsion qu'on a enlevée, on peut la retrouver si on veut. Tu fais des efforts, tu la retrouveras, ta pulsion. Oui.
Est-ce que je ne sais plus qui c'est.
T'as tes chances.
Parle dans la Torah de quelqu'un qui se mettait devant les mikvés des femmes pour leur.
Rabbi Yochanan, ouais.
Voilà,
ouais.
Lui c'était un
tzaddik.
Mais c'est pas le même, ouais. Oui.
Parce que il se mettait devant les mikvés et les femmes quand elles le voyaient après elles avaient.
Évidemment, c'est un tzaddik.
C'était un.
Et c'est pour ça que nous on a du mal à comprendre cette histoire parce que nous on se dit quoi? Il va aller à côté du mikvé des femmes. Ça veut dire que, en plus, il voit les femmes sortir et que il va dire, elle va rentrer à la maison, etc. C'est pas des choses, ça passe pas. Nous, on a du mal à comprendre.
Pour que ses enfants ressemblent, c'est compliqué à comprendre ça.
C'est hyper compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Oui, tu dis quoi? Ça veut dire que pour que quand elle va être avec son mari, elle va penser à un autre homme. C'est vrai, c'est compliqué à comprendre.
Il n'y a rien à comprendre.
Parce que c'est ça. Non, mais c'est on a du mal à comprendre.
Il avait une mission particulière.
C'est écrit qu'il faut avoir des pensées, il faut essayer d'avoir des pensées le plus cachères possible. C'est pour ça qu'il le faisait, mais c'est très compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas comprendre. Très souvent, on ne peut pas comprendre le tzaddik. Une fois, il y avait un tzaddik, je crois que c'était le rabbi de Gour qui avait dit comme ça. Le rabbi de Gour qui avait dit, il avait donné l'exemple du jeu, c'était le jeu des dames. Le jeu des dames, d'accord? Dans le jeu des dames, comment ça marche? Alors comment ça marche? On avance, d'accord? Je crois que donc on peut que avancer, on peut pas reculer.
Vous venez pas jouer,
d'accord,
ou...
d'accord. Donc on peut que avancer, pas reculer. Pour manger, d'accord, on doit aller en diagonale, c'est ça, d'accord. Bon, mais normalement on peut jamais reculer, d'accord. Sauf dans certains, voilà, dans certaines règles, on peut sauter comme ça, tac tac, d'accord. Voilà, sauf si on mange, si on est en train de manger, là on peut faire comme ça, mais normalement on peut jamais reculer. Mais une fois qu'il est arrivé en haut,
une dame.
Et là, une fois qu'il fait une dame, il peut aller où il veut. Alors une fois, c'était la nuit du 25 décembre où on a l'habitude chez les chassidim de pas étudier. Il y avait le rabbi de Gour qui est rentré dans le Beit Hamidrash et il a vu les chassidim. On dit que même si on n'étudie pas, on essaie de faire des choses qui stimulent la réflexion. Comme ça, au moins, ça sera au service de l'étude de la Torah. Et donc, il a vu des élèves à lui qui étaient en train de jouer aux dames. Il a vu le jeu des dames. Il a dit, on peut pas faire de divrei Torah, mais je vais quand même vous donner un enseignement sur le jeu des dames. Il dit, vous savez ce qu'il y a dans le jeu des dames? Vous avez bien vu que tant qu'on n'est pas arrivé en haut, on doit suivre les règles. Mais une fois qu'on est arrivé en haut, il n'y a plus de règles. La règle, c'est qu'on peut aller où on veut. Il leur a dit, c'est ça le tzaddik. C'est dès qu'il arrive en haut. Une fois qu'il arrive en haut, il peut aller à droite, à gauche, en bas, c'est fini, c'est la reine. C'est le roi.
C'est bon, il peut se faire manger par une autre reine.
Voilà, c'est fini. Ah, comment? Ah, après, il peut se faire manger que par une reine?
Non.
Une
dame, il faut manger une dame.
Oui, mais est-ce que. Un pion, il peut manger aussi. Un pion aussi, il peut manger.
C'est pour ça qu'il faut manger aussi.
C'est ça le message.
Donc on est obligé de manger ou pas obligé?
Mmh. Hein,
oui,
ça dépend. Bon, on revient à l'autre sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, parce que donne-moi les questions, comme ça après on va essayer au fil de la suite de répondre aux questions.
T'as une question, tu réponds d'un seul coup.
Oui, on essaie de grouper parce que sinon après on perd le fil. Donc maintenant ce qu'on va essayer de comprendre, on a déjà expliqué qu'est-ce que c'est le tzaddik imparfait. Le tzaddik imparfait, c'est celui que, numéro 1, il n'écoute pas son Yitzhara. Numéro 2, il a éteint son Yitzhara, mais il reste un chouïa. Ça c'est le tzaddik imparfait. Maintenant c'est quoi le tzaddik parfait? Ou bio aïnian, explication du sujet. Donc là je suis à la page 143 dans le Tanya en français. Bio aïnian, explication du sujet. Qui iné tzaddik gamour chené par arachel letov. C'est quoi un tzaddik parfait? C'est un tzaddik qui a transformé complètement son mal en bien. Velachen nikrat tzaddik vetovlo. Hazak pour Marcel pour la bonne définition. Donc Marcel, il a visé direct le tzaddik parfait.
T'as vu?
Allez. Hein? Tu l'as dit?
À se demander s'il n'a pas vu la suite. Hein,
je non, j'ai pas dit.
Mais bien sûr.
J'ai pas ouvert, je l'avais dit.
Oui. Mais la reine. Ah, peut-être c'est toi le tzaddik.
Non, c'est ce que j'ai dit.
Ah, non.
C'est
bon.
Ah, parce que si tu connais la définition, c'est que tu l'es.
Quoi, alors...
que
il a dit.
Non, mais bon, ça paraît. Non, je dis quoi.
Alors, c'est quoi le tzaddik parfait? C'est le tzaddik qui a transformé le mal en bien. Velachen nikra tzaddik vetov lo. Mais regardez comment en vérité tout est dans l'étymologie. Tzaddik vera lo. C'est un tzaddik qui lui reste vera lo. Ça veut dire qu'il lui reste un petit peu de ra, qu'il lui reste un petit peu de mal. Tzaddik vetov lo. C'est-à-dire, c'est un tzaddik qui a que du bien. Tzaddik vetov lo. Il a que du tov. Il a pas de rein. Même pas un chouïa. Rien. Zéro. Comment il fait ça? Ou aliédé asarat abegadim atsoim legamre mehara. Comment il fait ça, le tzaddik? C'est quand, je traduis littéralement et je vais expliquer. C'est quand il, ça veut dire qu'il a réussi à enlever complètement les vêtements abominables. C'est quoi les vêtements? De quoi il parle? C'est quoi ces vêtements abominables? Alors, je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure. Qu'en vérité, l'homme en soi n'est pas mauvais. Il a des capacités. Capacité d'aimer, capacité de craindre, d'accord, capacité de vouloir. Il a des capacités. Seulement, malheureusement, avec le temps, on s'habitue à développer ses capacités dans le mal. Vouloir des bêtises, d'accord, craindre des bêtises. On s'habitue à les développer dans le mal. Mais ça, c'est des vêtements. Ça veut dire qu'avec le temps, on a enveloppé une idée, d'accord, une pulsion, avec un certain style. La preuve, c'est quoi? C'est les enfants. Un enfant, c'est pur. Regardez comment un enfant, c'est pur. Pourtant, nous, on était enfants avant. Parce que l'enfant, il est pur. Il a pas eu le temps, avec le temps, de mettre des vêtements sales dessus, comme nous. Nous, on a des pulsions de volonté, par exemple. L'enfant, il n'est pas dérangé par ça. Par exemple, un enfant n'est pas dérangé par sa nudité. Ça ne le dérange pas, il ne voit pas le problème. Il n'est pas dérangé. Pourquoi il n'est pas dérangé? Parce qu'on ne lui a pas mis un vêtement sale dessus. Nous, avec le temps, quand on a eu des pensées qui ne sont pas très cachées, on a mis un vêtement sale. Donc, comme on a mis des vêtements sales dessus, donc du coup, certaines choses maintenant, on dit, ah oui, mais tu comprends, ça c'est sale. L'enfant, il ne comprend pas pourquoi c'est sale. Il faut du temps pour comprendre ça. Alors, c'est quoi le tzaddik parfait? C'est celui qui a réussi à enlever tous les vêtements sales. Et qu'il lui reste finalement que les pulsions comme si qu'il était enfant. Il est revenu à l'état comme si qu'il était enfant. Mamache, comme si qu'il était enfant. C'est-à-dire que pour lui maintenant, la capacité d'aimer, c'est pour aimer Hachem. La capacité de craindre, c'est pour craindre Hachem. D'accord? Manger, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Tout est pour Akadosh Baruch Hu. Il a enlevé toutes les mauvaises utilisations possibles, il les a enlevées. Il est plus intéressé par ça. Et même un chouïa, il reste pas. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Diaïnou, ça veut dire l'imos me'ot beta'anouge olamazé. L'imos me'ot beta'anouge olamazé, ça veut dire l'imos avoir un dégoût complet, mais t'as nougé à la masse des plaisirs de ce monde-ci. Vous savez, j'ai lu la semaine dernière une histoire. Il y avait un rave en Israël qui s'appelait le rave Reuven Dounin, à la Vachalom. Une fois, il parlait des élèves de Yeshiva. Et bon, il y avait un élève apparemment qui se prenait pour quelqu'un de, d'accord? Et le rave était connu pour quelqu'un qui savait remettre les gens en place. Et donc ce rave-là, quand il a parlé à cet élève-là, il lui a dit, alors est-ce que tu te prends pour un tzaddik? Alors l'élève, bon, il a pas répondu oui, mais
avec son regard, d'accord?
Bien sûr, il dit voilà, il me suit la Torah toute la journée, etc. Il lui dit voilà, je suis un tzaddik. Alors le rave lui a posé la question, il dit tu sais ce que dit la Gemara sur un tzaddik? Tzaddik parfait. La Gemara dit que le tzaddik parfait, lorsqu'il passe devant une avéra, comme il sait que c'est contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il est moès, il a un dégoût, comme les excréments. Il dit, est-ce que toi, quand tu passes à côté d'une femme mal habillée, tu vomis? Ça te donne envie de vomir? Ça te donne envie de vomir quand tu la vois? Il dit, non, pas du tout. Je me tourne les yeux. Il dit, mais alors comment tu... Il dit, c'est pas ça. Il dit, un tzaddik, c'est quoi? C'est une personne que lorsqu'il voit une avéra qui est en train d'être faite, il a un dégoût, il a envie de vomir. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est encore beaucoup plus fort que le tzaddik imparfait. Le tzaddik imparfait, c'est celui qui a réussi, on a dit, à faire que son sort, que son yitzhara ne parle plus. Mais son yitzhara, il est encore un petit peu là. Mais imaginez le tzaddik parfait, celui qui arrive à un tel niveau, que quand il voit une avéra, pas seulement qu'il n'a pas envie de la faire, mais il a un dégoût profond. Si je reprenais l'exemple du Baal Teshuva, et j'ai dit tout à l'heure qu'en vérité, on peut tous être sous certains détails de notre vie. On sait par exemple des gens, quand ils étaient jeunes, ils allaient en boîte de nuit, ils faisaient des bêtises, etc. Et ces mêmes personnes, lorsqu'après ils font teshuva et qu'ils passent à côté d'endroits comme ça, ils ont envie de vomir. Ils ont le dégoût, ils ont envie de vomir. Ça ne veut pas dire qu'il est sadique, mais sur ça, il est devenu sadique. D'accord? Il a envie de vomir. Il a un dégoût, il a envie de vomir. D'accord?
Attends, il peut quand même être attiré par.
Alors, c'est vrai.
Le même type de femme, donc, et par une chétraïde.
Ah, c'est compris.
Et pas avoir des pensées que Sharon.
Non, alors, si je reprends l'exemple de ce Baal Teshuva, il y a deux catégories. Non, je comprends la question.
Il a affiné ses goûts.
Je comprends la question.
C'est plus vicieux comme.
Je comprends la question. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu prends l'exemple du Baal Teshuva, par exemple, quand il était jeune, d'accord? C'était la fièvre du samedi soir, tous les samedis soirs, d'accord? Celui-là, quand il fait Teshuva, on va dire qu'il est devenu sadique sur la boîte de nuit. Il y a deux catégories. S'il a un sadique imparfait, c'est-à-dire comment? Il passe à côté de la boîte de nuit, il n'a pas envie de rentrer. Mais bon, il n'a pas envie de vomir non plus. Bon, il rentre pas, mais il n'a pas envie. Il n'a pas envie de rentrer, mais il n'a pas envie de vomir. Mais t'as celui qui a fait une telle Teshuva que le bonhomme, il a envie de vomir. Ça veut dire que vraiment, il a complètement supprimé. Mais ça, c'est un niveau, pour répondre à la question de Dan de tout à l'heure, c'est pas un objectif. Parce que c'est très peu probable qu'on arrive à ce niveau-là. En tout cas, à long terme, c'est très peu probable. Au début de la Teshuva, on est peut-être comme ça, mais après, ça revient.
C'est quoi l'objectif?
L'objectif, c'est de ne pas faire la Averot, c'est tout. Après, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est pas dur? Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait en ça.
Alors, pourquoi on nous dit que c'est pas le fait de ne pas même la voir?
De ne pas la...
Elle est peut-être même invisible à ses yeux, il l'aperçoit même plus.
Enfin, je n'irai pas jusqu'à là.
Oh là là, Claude.
Alors, attends, bah, écoute,
oui.
Tu la vois pas, tu la regardes, tu la vois.
L'Admour Hazaken, il fait.
Oui.
Il dit que c'est, non, c'est la voix. Parce
bien
que
sûr.
Pas, donc, en fait, au début, envoyer, au tout début, tu as dit, c'est quoi l'objectif de la voix?
Devenir un Bénoni.
Elle est passée. Les gens, la deviennent, ils s'améliorent.
Et là, tu l'as tué.
Durablement.
Bien sûr.
Dans la, comment ça s'appelle, dans les plateaux des mille votes, durablement.
Durablement.
Parce que j'aime bien ce temps-là, à part de demander dans le regard,
et elle te dégoûte, c'est que tu la regardes.
Pourquoi pas, c'est un cas, si tu la regardes, il concerne une personne. Une âme, et en plus un par génération.
Bonne question.
Pas plus qu'en une seule ligne, juste histoire de le savoir.
Parce que, même si on peut pas devenir, même si la majorité des gens ne peuvent pas devenir tzaddik sur toute leur vie, ils peuvent devenir tzaddik sur un détail de leur vie. Sur une mida. Celui, par exemple, qui avait un grand yetzerara avec les femmes, s'il veut, sur ça, il peut. Oui, sur ça, il peut. C'est possible, oui. On a vu des gens comme ça. On a eu des gens comme ça, d'accord? Des gens qui savaient qui savaient pas ce que c'est dormir la nuit, d'accord? Pour eux, la nuit, pour eux, on dort pendant la journée. Et que ces gens-là, maintenant, la nuit, tu le vois en train d'étudier la Torah. Et quand il passe dans une autre nuit, il a envie de vomir.
Donc il ne dort pas la nuit.
D'accord? Il dort toujours la journée, mais, non, il dort moins. Mais c'est vrai. Il y a des gens comme ça que, ils ont transformé le mal en bien. D'accord? C'est un niveau. Mais ça ne veut pas dire qu'il est sadique, celui-là. Sur ce détail-là, il est devenu sadique. D'accord? Ou bien, je pense aussi, on peut appliquer ça, par exemple, lorsqu'on a une personne, par exemple, regardez, on va donner un exemple aussi peut-être un peu plus concret. Lorsqu'on a une personne, par exemple, que lorsqu'il s'est lancé dans les affaires, il était toujours dans la course pour gagner encore plus et encore plus. C'est normal, on veut gagner encore plus et encore plus. et qu'après un moment il comprend hein, que cette course vers l'argent ne l'amène nulle part, et qu'à cause de ça il laisse tomber sa famille, et qu'à un moment il a décidé de se changer. Il a dit écoute, dorénavant maintenant, je vais commencer à m'occuper plus de ma famille, je vais gagner ma vie correctement, mais tant pis si je gagne un peu moins. Exact. Il peut se changer, c'est possible, d'accord ? Il peut se changer à tel point que lorsqu'il voit des gens en train de courir vers l'argent, non seulement que ça l'intéresse plus, mais qu'il a même envie de vomir, ça lui fait de la peine. Il peut arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire que, ça veut dire que, temporairement, sur quelques midotes, on peut réussir à changer. Ça répond à ta question, Michael ?
Temporairement, t'as dit.
Temporairement, ou en tout cas, sur certaines choses. On peut le faire. Le tzadik, il le fait surtout.
C'est pas gamour, même si c'est extrêmement.
Ça peut être gamour.
C'est gamour
sur un détail.
Même si c'est extrêmement. Sur un détail, sur
il faut connaître la définition.
Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, dans les mots. Leik anek bam betanugot ben adam le malot agu tavat agu bilvad velo lavodat Hashem. Ça veut dire que le tzaddik, ce tzaddik parfait, il a un tel dégoût que c'est pas seulement que le Yetzer Hara ne l'embête plus, c'est qu'il a un dégoût, ça le dégoûte, il arrive même pas à comprendre comment c'est possible de faire quelque chose que par plaisir du corps et pas pour servir à Kadosh Baruch Hu. Il dit mais la vera d'où elle vient? Elle vient du mal. Tout ce qui est contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il a un dégoût profond. Mipne eyotam, nimshachim, venishpaim, meaklipa, vesitrahara. Comme ce tzaddik parfait sait que le mal, les avérotes, viennent du mal. Vechot, donc des forces du mal. Vechol ma sheu ma sitrahara, atzaddik gamur son obetachlit asina, mekramat godel avatel hachem, gjde beavar babetanugim. Alors c'est très simple. Il a une image très simple ici. Il dit, le tzaddik, il a un amour sans limite à Akadosh Baruch Hu. Quand on aime quelqu'un, automatiquement, on n'aime pas ce qu'il n'aime pas.
Le bachelor aussi.
Attends, laisse-moi juste arriver au bout du raisonnement.
Les amis de mes amis.
Ben, ça veut dire, laisse-moi arriver au bout du raisonnement. Ça veut dire que si par exemple, d'accord, si par exemple, j'aime quelqu'un, et que je sais que cette personne-là, il y a une personne qui lui veut du mal, naturellement, même si moi ces gens-là je ne les connais pas, mais comme ils embêtent celui que j'aime, je vais aller m'occuper de leur cas. Et même si je ne m'occupe pas de leur cas, mais je n'ai pas envie de les voir. Ça me dégoûte. Pourquoi? Pourtant, je le connais pas, ils m'ont rien fait.
C'est un niveau au-dessous du tien.
Pourquoi je l'ai dégoûté? Parce que là, en vérité, il veut répondre à l'équation. Pourquoi le tzaddik, il a un dégoût du mal? Le mal lui a rien fait. Il lui parle pas. Il dit, mais je t'ai rien fait, toi. Toi, je te parle pas. Pourquoi t'as un dégoût pour moi? Il dit, non, c'est vrai que tu m'as rien fait. Mais comme je sais que moi, j'aime Akadosh Baruch Hu, et qu'à cause de toi, le mal, les gens font des choses contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc, je te hais le mal, parce qu'à cause de toi, les gens font le contraire de la volonté de Dieu. Quand j'aime quelqu'un, et qu'il y a une personne qui lui fait du mal, quand par exemple quelqu'un va aimer son enfant et qu'il y a un autre enfant qui a embêté mon fils, même si maintenant moi cet autre enfant je le connais pas, je connais même pas son nom, il a embêté mon fils, je vais m'occuper de son cas. D'accord? C'est normal. En tout cas, je suis pas content. Pourquoi je suis pas content? Parce que comme j'aime mon fils, automatiquement je n'aime pas celui qui n'aime pas mon fils ou celui qui lui cause du tort. Ben, c'est juste pour un Kadosh Baruch Hu. Deux secondes, je finis le raisonnement. C'est juste pour un Kadosh Baruch Hu. Le tzaddik parfait, non seulement qu'il a tué son Yitzhara et que son Yitzhara c'est fini, son Yitzhara il n'entend plus, mais en plus, comme il aime très très fort Akadosh Baruch Hu, tout ce qui est contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le tzaddik là, il a un dégoût. Il a un tel dégoût, il arrive pas à supporter. C'est-à-dire que de là, on comprend qu'en vérité, c'est un effort énorme. Et là, tout à l'heure, plusieurs posaient la question, quel est le but d'un tzaddik? Eh ben, on dit par exemple qu'un grand tzaddik, c'est un effort énorme pour lui d'ignorer une avéra. Pourquoi? Parce que moi, quand je vois une personne qui a fait une avéra, bon, je sais qu'elle a fait des bêtises, mais à la limite, ça me dérange pas, il n'y a pas de mauvaise odeur pour moi. Un tzaddik, lorsqu'il voit une personne qui a fait une avéra qui passe devant lui, c'est comme si qu'il y avait une odeur d'excrément à côté de lui. Et imaginez l'effort qu'il fait pour garder le sourire et se dire quand même je vais rapprocher à la Torah. Je sais pas si vous imaginez l'effort qu'il doit faire. Ça c'est un effort très 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 difficile. Et c'est pour ça qu'il y a les tzaddikim qui l'ont fait. Et les maîtres de la chassidoute insistaient beaucoup pour le faire. Ils disaient que où on voit la force d'un grand tzaddik, la force d'un grand tzaddik, c'est que même s'il y a un grand Baal Avera qui passe à côté de lui, il apprend quand même à s'occuper de lui. On a plein d'histoires de tzaddikim comme ça, qu'il y avait des gens qui passaient, et le tzaddik disait à ses élèves, il disait, alors, bien sûr, on savait pas qui passait, et il disait, ça sent pas bon, il y a une odeur qui sent pas bon. Et des fois, il y a des odeurs. La Gemara dit des fois, la Gemara elle raconte, que des fois, il y avait même des enfants. La Gemara raconte qu'il y avait un enfant, qui était capable, avec l'odeur, de savoir quand une personne passait, s'il a fait le schéma ou il a pas fait le schéma.
L'odeur de quoi?
L'odeur.
D'être
je sais pas ce que tu veux dire. L'odeur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une sensibilité que nous on n'a pas. Imaginez maintenant un grand tzaddik comme ça qui a une sensibilité qui est tellement évoluée, qui sent le mal. Il sent le bien, mais il sent le mal. Et il voit un rachat passer à côté de lui. C'est pas un scanner, il te voit à côté de toi, t'es tout nu devant lui. Il te voit passer, mais t'as honte, mais tu dis, mais comment il me supporte? Pourquoi il me dit pas, mais faites-le sortir dehors? Vous imaginez l'effort qu'il doit avoir ce tzaddik là pour essayer d'ignorer? C'est pour ça que, en tout cas pour moi, ce qui m'a toujours beaucoup marqué chez le rabbi, c'est qu'on a vu que le rabbi, tout en étant un très très grand tzaddik, il avait cette capacité énorme, d'accord, d'être capable d'accueillir n'importe qui. Et des fois, des grands rachaïms qui passaient, des gens qui ont fait des bêtises, etc. Tu vois, le rabbi, il avait un grand sourire, que des fois, même le secrétaire, il s'est choqué, il dit, mais comment il peut l'accueillir avec un grand sourire? Et il disait, d'accord, le rabbi disait, c'est un juif, il faut l'accueillir. Bon, bien sûr, il faut l'encourager à faire, on ne dit pas, on t'accepte comme tu es et reste comme ça. Non, chas v'shalom. Notre but, c'est qu'il fasse Torah mitzvot. Mais c'est une force! C'est une force! Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce qui se passe, lorsqu'on va voir un tzaddik, même si c'est un grand rachat, eh ben, quelque part, la force du tzaddik va se battre contre la force du rachat. Il y a un conflit. Et même si le rachat sent que ça lui a rien fait, il sent pas que ça lui a fait quelque chose, eh ben, quelque part, ça a changé quelque chose, ça a cassé quelque chose. Et c'est pour ça qu'on va voir le tzaddikim. C'est extraordinaire. Donc ça, là, on commence à comprendre un peu la force d'un tzaddik. C'est quoi un tzaddik parfait? Non seulement qu'il a tué son yetzer hara, mais en plus qu'il a un dégoût du mal. Alors imagine un tzaddik comme ça, si en plus il fait l'effort d'accueillir les gens, ça c'est extraordinaire. Donc avec ça, je vais répondre à la question de tout à l'heure. Plusieurs ont posé la question, comment on peut reconnaître un tzaddik? C'est très simple. Comment d'après vous un tzaddik, il a Ruach HaKodesh, il a l'inspiration divine? Et ça, les tzaddikim qui ont l'inspiration divine, on en a connu. D'accord? Moi, je suis Chabad, évidemment, je vais vous parler du Rabbi. Mais ça, on en a connu. C'est-à-dire des histoires, il y a des milliers d'histoires, des gens qui ont vu devant leurs yeux, des miracles. Ah, ils te sortent des trucs que tu as fait, ils te donnent des brachot, des gens qui se font 20 ans qui n'ont pas eu d'enfants, des brachot, qu'on a vu devant nos yeux. Comment il fait? D'accord? Il se fait des effets spéciaux, comment ça marche? C'est très simple. C'est qu'en vérité, il a une sensibilité pour capter des choses que nous, on peut pas capter. Il a un satellite spécial qui capte des choses que nous, on capte pas. Nous, on n'a pas le même capteur. Comme c'est un tzaddik qui a ce niveau de perception, il arrive à capter ces choses-là. C'est-à-dire que quand une personne passe devant lui, moi, quand une personne passe devant moi, je vois son corps, je vois ses yeux, je vois sa tête, je vois son corps. Le tzaddik, il voit pas ton corps quand il te voit. Il te voit ce qu'il y a derrière. Il te voit ce qu'il y a dans les entrailles. Il te scanne. Il voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un autre niveau. C'est une autre catégorie. Il voit ton potentiel. Toi, tu devrais te lancer dans ça. D'où il sait ça? Parce qu'il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc imaginez à quel point c'est difficile pour un tzaddik quand il voit une personne qui a fait d'avérot et qui n'a pas fait d'avérot de se présenter devant un tzaddik. Une fois, il y avait le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Brunois. D'accord, Yeshiva de Brunois, j'ai passé au Hachem, j'ai eu la chance de passer 5 ans de ma vie là-bas. Et le Rosh Yeshiva moi j'ai connu le fils de ce Rosh Yeshiva, mais son père c'était le Rav Nissan Nemanov. Et le Rav Nissan Nemanov, il avait dû attendre 10 ans avant de venir à New York. Parce qu'à l'époque, pour venir à New York, c'est très compliqué. Il fallait des visas et les billets coûtaient le prix d'une paye de 6 mois. Enfin, c'était vraiment, ça coûtait très très cher pour aller à New York à cette époque-là. Ou en bateau, dans un voyage de 2 semaines. Enfin bon, c'était très très compliqué. Et donc, 10 ans après que le rabbi est devenu rabbi, il est parti chez le rabbi. Et il est parti chez le rabbi, etc. Bon, au début, il était dans le feu, etc. Et quelques jours plus tard, il a commencé à parler aux élèves de la yeshiva. La yeshiva du 770 à New York. Il leur a dit quelque chose. Il leur a dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que vous mettez, enfin, comme ça, il leur a dit en yiddish, fourrez votre nez devant le rabbi. Ils allaient toujours devant le rabbi. Il dit, mais avec la verrote qu'on fait, vous avez pas honte de vous mettre comme ça, de vous pointer devant le rabbi? D'accord? Et il y avait par hasard, il n'y a pas de hasard, quand il était en train de faire ce fabringen aux élèves de la yeshiva, bon, il leur a parlé plein de choses, mais entre autres, il leur a dit ça. Il y avait un secrétaire du rabbi qui était là en train d'écouter. Alors, quelques heures plus tard, ce secrétaire rentre dans la chambre du rabbi pour les affaires courantes, et le rabbi lui dit, qu'est-ce qui se passe à la yeshiva? Et il dit, il y a le Rav Nissan qui est en train de faire un fabringen. Il lui dit, alors, t'as entendu des choses? Il dit, oui. Il a dit qu'il comprend pas comment les élèves de la yeshiva, ils pointent leur nez comme ça devant le rabbi. Le rabbi lui dit, oui, c'est vrai.
Je confirme.
Oui, c'est vrai. Et pourtant, avec un grand sourire, jamais on a vu ça sur le rabbi. Jamais on a vu qu'il a repoussé quelqu'un, etc. Mais ça veut dire que c'est là qu'on comprend. Hein. Moi, cette histoire parle beaucoup. Ça veut dire que un tzaddik, c'est un effort pour lui de faire comme si de rien n'était, de rester à côté avec toutes les mauvaises pensées qu'on a. Ça veut dire que quand tu es en présence d'un tzaddik, dès que t'as une pensée un peu tordue, déplacée qui passe dans la tête, le tzaddik la sent tout de suite. Il est capable de te retourner vers toi et de te dire voilà ce que tu viens de penser. Il sait ce que tu as pensé parce qu'il a vu la pensée là. Il la voit dans les airs. Il la voit. C'est pas le même niveau. C'est un autre niveau. Et ça, on l'a vu de nos yeux. Comment on le sait? Parce qu'on a vu des tzaddikim qui te sortent des trucs que c'est impossible que tu. C'est impossible qu'ils sachent. Personne n'a pu leur dire. Et ils te sortent des trucs. Il y a des milliers d'histoires, d'accord? Même une fois, c'est Sharon qui a raconté. Sharon à la vache, elle avait raconté l'histoire. Il a dit une fois, quand il était dans le bureau du rabbi en Yéridou, dans notre vie privée. Donc, ils ont parlé pendant 2 heures, etc., de plusieurs choses de l'état d'Israël. Et après, à la fin, le rabbi lui dit, est-ce qu'il y a encore autre chose dont vous vouliez me parler? Il lui dit non, je pense pas. Alors, il lui dit, vous êtes sûr? Et il lui dit non, oui, c'est bon. Il dit, pourquoi vous me parlez pas de ça et de ça? Et il lui sort, écoutez bien. Il lui sort un litige qu'il y avait entre lui et une autre personne, que personne n'était au courant. C'est impossible. C'était un litige sur une histoire nucléaire, enfin un truc que personne, c'était impossible, que même dans le gouvernement, personne n'était au courant. Il était avec sa femme, d'accord? Il était avec sa femme à ce moment-là. Il a raconté, il a dit, lorsque le rabbi m'a dit ça, je suis devenu blême, il n'arrive plus à bouger. Sharon, il a raconté ça, en sortant. Parce que quand il est sorti, les chassidim, il est resté 2 heures dans le bureau du rabbi. Les chassidim m'ont dit, racontez-nous quelque chose. Alors, il a dit, bon, il a dit, ce qu'on a parlé avec le rabbi, je ne peux pas vous répéter, parce que c'était des sujets, apparemment, d'accord? Top secret, en tout cas, des choses qu'il ne voulait pas répéter, d'accord? Ou perso, ou secret défense, etc. Mais il a dit, juste, il a raconté ce détail. Alors, il a dit, ça, je peux vous dire, c'est qu'il sait des choses que c'est impossible de savoir comment il a pu savoir. Et d'ailleurs, dans ce même voyage, quand il était, bon, puisque j'ai parlé de Sharon, quand ce même voyage, lorsqu'il était chez le rabbi, en fait, il devait rester à la base 1 quart d'heure, 1 minute chez le rabbi. Et le rabbi le retenait. Il retenait. Il a tenu 4 heures, il a tenu. Il avait un avion le lendemain matin. D'accord? Et il était tellement crevé, pas resté pour le rabbi, il est resté. Il était tellement crevé à la fin qu'il a dit à son chauffeur, il a dit, bon, ramène-moi à l'hôtel, l'avion se débrouillera. Bon, il était déjà au gradé, il pouvait se permettre. Donc il a dit, l'avion, on verra plus tard. C'est cet avion qui était détourné. Non, il était détourné. Il avait atterri en Algérie de mémoire, d'accord?
Oui.
Le fameux avion qui avait atterri en Algérie.
93, à Marseille.
Non, bien avant. C'était en 76, 72, voilà. Un avion qui avait été détourné, et on connaît l'histoire maintenant. On sait qu'en vérité, ils avaient l'information que dans cet avion, il y avait une autre personnalité israélienne, ils avaient détourné l'avion pour la prendre. Et c'est pour ça que quand ils sont arrivés, ils ont commencé à questionner tout le monde, ils ont dit, c'est pas possible, il y a un truc, on nous cache quelque chose. Et c'était parce que vous savez, une personne de ce rang ne change pas comme ça de vol. C'est prévu de longue date, on ne change pas comme ça de vol. Il a eu un S. Et il a raconté, d'où on connaît cette histoire. C'est Sharon lui-même qui l'a raconté quelques mois plus tard dans un Fabringen de Yutet Kislev. Il venait chaque année à Yutet Kislev, au grand Fabringen à Kfar Chabad. Chaque année, il avait l'habitude de venir, en tout cas dans les premières années. Et quand il était dans le Fabringen, il a demandé à prendre la parole. Il leur a dit, sachez que ma vie a été sauvée grâce au Rabbi. Sharon, il a parlé comme ça. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il est devenu religieux. Maintenant, il est déjà dans le monde de la vérité. Mais ça veut dire que, pour montrer...
Il confirme, avion de la Sabena.
Sabena, ouais. En 72,
72.
Voilà.
Bah, quelle mémoire,
Et il cherchait Sharon dedans. On connaît, mais l'histoire est confirmée. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, vous pouvez chercher dans les... L'histoire, il cherchait Sharon. Et Sharon, vous verrez, ça racontait. Hein. Tout ce que je vous dis, ça racontait. C'est pas des choses qui... C'est même pas raconté par nous. D'accord. Alors, comment il savait? Alors, d'ailleurs, en passant, puisque je vous parle de Tzadik.
Il y a 33 ans, c'est le premier grand accompagné, là.
On raconte qu'une fois, et par la suite, de mémoire, c'est Elie Wiesel. Elie Wiesel, quelques mois plus tard, qui était en Yéridout, puisqu'on parle de Tzadik. Elie Wiesel qui était en Yéridout chez le Rabbi. D'accord? Donc, quelques mois plus tard. Et quand il rentre en Yéridout chez le rabbi, il dit, rabbi, vous savez, le monde parle beaucoup de l'histoire de l'avion, d'accord? Et il dit, mais je me pose une question. Vous savez, Elie Wiesel, comment il est? Il est toujours, pose beaucoup de questions. Il a des questions comme ça, d'accord, très philosophiques. Il dit, est-ce que quand vous avez dit à Sharon, est-ce que quand vous avez poussé Sharon à ne pas prendre l'avion, est-ce que vous saviez que l'avion allait être détourné? Et il a dit, si vous le saviez, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Pourquoi vous ne l'avez pas dit, l'avion va être détourné? Alors le rabbi lui répond, c'est une très bonne question. Je trouve que c'est une bonne question. Alors, le rabbi lui a répondu comme ça. Il lui a dit, je ne savais pas que l'avion allait détourner. Mais dans le ciel, j'ai eu un message, j'ai eu comme une sorte de pulsion pour montrer à quel point c'est un sadique, qu'il fallait que je le retienne à ce moment-là pour le sauver de quelque chose. Mais dans le ciel, on m'a pas dit ce que c'était. Mais, j'ai senti une forte pulsion qu'il faut que je le retienne ici. Au maximum. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Il a tenu jusqu'à 6h du matin. Ça, pour montrer que ça, c'est un tzadik. Un tzadik, c'est, il a des pulsions. Et s'il a une pulsion, c'est qu'il y a un message de Dieu. Il a une pulsion que Sharon doit rester là, c'est qu'il doit rester là. C'est qu'il y a un message à Kadosh Baruch Hu. C'est un tzadik, c'est autre chose. C'est complètement un autre niveau. Donc, pour conclure, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai pas envie de bâcler. On continuera la semaine prochaine. Aujourd'hui, on a développé le tzadik imparfait, le tzadik parfait. Le tzadik imparfait, c'est celui qui a réussi, non seulement, ça, bien sûr qu'il ne coûte pas son Yitzhara, ça c'est sûr, mais qu'en plus, il a tué son Yitzhara, mais il reste encore un chouïa de mal qui est toujours là. Le tzadik parfait, c'est celui que non seulement qu'il a tué son Yitzhara et qu'il reste zéro, mais qu'il a un dégoût. Dès qu'il voit une personne qui fait la vera, c'est un dégoût. Et donc, on comprend qu'une personne comme ça, lorsqu'il arrive à rester à côté d'une personne qui a fait la vera et de rester comme si de rien n'était, on comprend que c'est un niveau extraordinaire.
On n'a pas dit ça la dernière fois.
On verra après ça. Il a raison qu'un tzadik peut pas le sens du goût, ça veut dire qu'il a plus le kiff des aliments.
Non, il l'enlève, c'est tout.
De toute façon, il fait rien pour. Mais la question,
c'est quoi la... Donc, c'est quoi la question? Donc, c'est quoi la question? C'est une bonne question. Ça, on va développer la semaine prochaine. Ce chapitre-là, on va le faire en deux cours. Donc, ce premier cours, on a fait maintenant. La semaine prochaine, on fait un autre cours.
Pourquoi le tzadik, il a beaucoup d'éléments?
Pourquoi? C'est pas qu'il a plus de goût aux aliments. C'est qu'il a perdu, enfin, il a supprimé le kiff des aliments. Tu vois, le kiff, la recherche, et la bonne viande, et le bon truc. Mais il dit plus rien.
C'est modeste, quoi, c'est tout.
Non, c'est pas.
Le mot kiff, ça devrait être.
Ouais, ça.
Le tzadik parfait, oui.
C'est un début.
Il est là pour le bien en réalité. Donc est-ce que le tzadik il est dégoûté par Yetzer Hara ou il est dégoûté par la personne qui fait la
mal? Il est dégoûté par le mal, donc par ceux qui font le mal.
Par la personne.
Bien sûr.
Mais non, la personne, il y a du.
Il est dégoûté par le mal de la personne, pas par la personne. Mais il a un rejet. C'est très dur pour lui d'approcher.
La personne, elle a une partie de Dieu en lui. Comment il va être dégoûté? Il est dégoûté de l'acte en lui-même, pas de la personne.
De l'acte.
Ouais, c'est les habits. La Neshama, elle reste...
On peut dire que la personne qui est justement dans ce...
Non, on ne parle pas des Mekmessi. On a rien dit sur les Mekmessi.
Voilà. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Allez.
Ils sont tous assis. On est bien assis, hein.
Alors...